Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
La salamandre tachetée vit essentiellement dans les forêts de feuillus plutôt humides. Elle quitte parfois le boisement pour aller mettre bas ses larves dans un plan d'eau. Sa reproduction se fait surtout dans de petits cours d'eau frais et oxygénés, offrant des vasques tranquilles. Les salamandres déposent 20 à 50 larves au printemps. Ces larves ou têtards, pour se développer, doivent rester 12 à 16 semaines dans cette eau de source. Le captage et les pompages d'hiver entraînent le plus souvent l'assèchement estival des petits ruisseaux, provoquant la mort des larves. À la longue, cela peut signifier la fin des salamandres.
La fin des salamandres.
Nutrisco et extinguo. Je nourris et j'éteins. Tel est le cri de la salamandre qui aujourd'hui a envahi nos studios pour cette émission spéciale de Vacarme en réunion. La salamandre, ce sel de roche qui éteint ce qui doit mourir afin de nourrir ce qui doit renaître. Représentée par Paracels, Michael Meyer et Julien Champagne, peinte par Jérôme Bosch et Gustave Klimt, sculptée par Viollet-le-Duc et Anthony Gaudi, choisie comme emblème par François Ier et par les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, on la retrouve sur l'abbaye de Montmajour, l'hôtel de ville de Paris, l'opéra Garnier, l'opéra, l'hôtel de Bourgterul à Rouen, le château
de Bourgterul, les chevaliers de Bourgterul, de là aussi.
Le château de Pierrefonds, le palais du Louvre, le château de Chambord, celui de Blois, de Fontainebleau. Son esprit souffle sur la demeure du chaos. On la voit à Venise, mais aussi sur les armes de Montréal, dans Lyon, de Cognac, du Havre, de Sarlat, de Belleville, et de quelques dizaines d'autres villes françaises. Elle a même son manoir à Lisieux. La salamandre est partout, discrète mais présente. Elle veille
partout,
sur le feu.
Elle est partout. Elle
nourrit
sur
le bon.
Elle veille sur le
éteint
feu.
Éteint le mauvais.
Elle nourrit le bon. Elle éteint le mauvais. La salamandre est partout, surtout dans les studios. Oh, au secours. Oh.
Sa forme est différente de tout ce que nous connaissons. Nous pourrions même parler de sans forme. En effet, elle peut apparaître dans le feu, sous des formes diverses et mouvantes, mais toujours harmonieuses.
Stop, le studio prend feu, merde!
Tout ce qui est du domaine du feu la concerne. Les orages, ou plutôt les éclairs et la foudre. Les feux, quelle que soit leur origine. Les feux des foyers, les feux de brousse, les incendies et tous les feux qui entrent dans nos actes quotidiens sont sous ses directives. Elle est aussi en rapport avec le feu qui brûle en nous. Celui qui peut se développer le long de notre colonne vertébrale. Soit très harmonieusement au fil de notre croissance intérieure, soit d'une manière violente et déstructurante lorsqu'on ne maîtrise pas sa montée. L'élément feu est le plus subtil mais aussi le plus dangereux des éléments. Il a la capacité de pénétrer tous les autres éléments. Il imprègne tout. Il est partout. Il peut être perçu extérieurement, mais aussi intérieurement, à la différence des autres éléments.
Désolé, mais je vois rien.
En effet, lorsque nous avons chaud ou que nous faisons de la fièvre, c'est ce feu intérieur qui se manifeste. La salamandre est aussi en rapport avec le processus alchimique de transmutation du plomb en or.
Attends, ça veut dire quoi, ça ?
Elle préside au feu qui illumine les étoiles et les planètes. Le feu donne la mort pour accéder à la renaissance, pur, il permet de brûler les entraves qui nous empêchent de changer d'état.
Oh mon Dieu, pardonnez mes péchés par le feu de la salamandre, je vous en conjure, j'ai péché trop de fois.
Borges dit d'elle dans le livre des êtres imaginaires qu'elles vivent dans le feu et font des cocons, que les dames des palais dévident et utilisent pour tisser des étoffes et des habits, et que pour laver et nettoyer ces étoffes, elles les jettent au feu.
N'importe quoi, et c'est qui celui-là?
Dans l'Égypte antique, le hiéroglyphe qui représente la salamandre signifie « homme mort de froid ». Les prêtres égyptiens voulant désigner un homme qui s'était tiré des flammes sain et sauf employaient ce hiéroglyphe de la salamandre qu'ils mettaient sur des charbons bien allumés.
Il faut savoir, il fait chaud ou il fait froid, moi je comprends plus rien, merde.
C'est aussi le hiéroglyphe du feu secret des sages. Aristote disait d'elle, dans son Histoire des animaux, que la salamandre est bien la preuve qu'il y a des animaux constitués de telle sorte que le feu ne peut pas les brûler. On prétend même que la salamandre, en passant dans le feu, le fait éteindre. Pline l'Ancien, lui, affirme dans l'Histoire naturelle que plusieurs disent que de la moelle épinière d'un homme, il se forme un serpent. En effet, beaucoup d'êtres proviennent d'une origine occulte et mystérieuse, même parmi les quadrupèdes. Telle est la salamandre, animal de la forme d'un lézard au corps étoilé, et qui ne paraît jamais que sous les grandes pluies, et disparaît dans le beau temps. Il est tellement froid qu'il éteint le feu par son contact comme le ferait la glace. La scanie, qu'il rejette par la bouche, qui est laiteuse, fait tomber tous les poils du corps humain qu'elle touche, et il reste sur la place une tache blanche. Chez les salamandres, il n'y a ni mâle ni femelle, elles ne produisent rien. Depuis la fin de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, la salamandre se fait plus discrète. On l'aperçoit au détour d'une façade, sur quelques piliers de cathédrale ou sur une gravure d'un ouvrage d'alchimiste, mais les livres se font muets. Il faut attendre que passe le cataclysme de la Renaissance pour voir surgir la salamandre dans la littérature. D'abord d'une manière poétique, comme dans l'Atalanta Fugiens de Michael Mayer. La salamandre, au cœur du feu, vit plus puissante et ne craint nullement tes menaces, Vulcain.
Je ne crains rien de toi.
Comme elle, née d'un feu sans déclin, notre pierre ne cherche pas à fuir la flamme impitoyable.
Je ne fuirai pas devant toi, flamme impitoyable.
Celle-là, froide, éteint l'incendie et sort libre. La pierre est chaude. Elle aime donc chaleur pareille.
J'aime les chaleurs pareilles, mienne.
Nous l'apercevons aussi au détour d'un sonnet de Quevedo que voici.
Quevedo que voici.
Je rendrai le phénix dans l'ardente flamme, où en renaissant je me rénove, et je prouve la virilité du feu, et qu'il est père et qu'il a descendance.
Ouais, c'est moi le père.
La froide salamandre qui dément la note docte, j'ose défendre. Quand les incendies que le bois assoiffé habite mon cœur et sans les sentir.
C'est bon, tout est cramé là, ça fait 10 minutes que tu nous parles d'incendie là. Il n'y a plus rien, il reste plus rien.
La salamandre prend de l'importance. Elle devient un personnage à part entière dans certains romans. Les auteurs prenant le temps de dévoiler son caractère au détour de tout un assemblage de descriptions et de dialogues révélateurs.
Révélateurs, oui, mais de quoi?
C'est par exemple un des personnages principaux de L'Autre Monde, de Cyrano de Bergerac.
C'est ici, L'Autre Monde, nous sommes déjà dans L'Autre Monde.
Cyrano de Bergerac qui tire un rapide portrait de celle qui incarne dans son œuvre le soufre alchimique, aux prises avec la remore, allégorie du mercure philosophique.
La remore, la remore.
La salamandre loge dans la terre sous des montagnes de bitume allumées, comme l'Etna, le Vésuve et le Cap Rouge. Elle sue de l'huile bouillante et crache de l'eau forte. Quand elle s'échauffe ou elle se bat. Avec le corps de cet animal, on n'a que faire de feu dans une cuisine. Pendu à la crémaillère, il fait bouillir et rôtir tout ce qu'on met devant la cheminée. Ses yeux éclairent la nuit comme des petits soleils. Et, placés dans une chambre obscure, ils y font l'effet d'une lampe perpétuelle. Nous allons maintenant lire un court extrait d'un petit texte qui parle de salamandre. C'est parti pour l'apocalyptical salamander.
Si cette histoire avait un début, elle commencerait sur une de ces bandes-sons jazzy d'un quelconque film noir des années 50, dans une ambiance enfumée de cigarettes et de dioxyde de carbone. La ville serait déjà éteinte sous un soleil de plomb, un soleil couleur de plomb. Une ville par ailleurs sans teint, miroir, figée dans un vrombissement déjà inquiétant. On y descendrait depuis les hauteurs d'une colline avoisinante, se frayant un chemin à travers des rues abandonnées jonchées de détritus, les murs lacérés, couverts de tellement de graffitis qu'on les dirait, ces murs, saturés d'un langage obscur, cabale moderne, absurde, dénué de finalité. Plongeant vers le centre-ville, le cœur figé dans un sursaut au creux de la poitrine, une sourde angoisse nous saisissant désormais, nos yeux seraient désormais peuplés de visions impossibles. Un trois-mâts, encastré entre des immeubles, des gratte-ciel immenses, qui formeraient les baguettes de cadrans solaires gigantesques à l'échelle de la ville. Et, encerclant l'endroit, menaçant de l'enterrer, des dizaines de carrières de pierre éparpillées sur les coteaux, dessinant comme un colisée colossal de gradins. Au mépris des lois de la gravité, il n'y avait pas que le soleil de plomb et l'air pollué qui provoquaient un sentiment d'insondable pesanteur. Tout paraissait réellement au ralenti, dès le commencement des événements que nous allons maintenant vous raconter. Cette atmosphère moite que tout a débuté. Vers 1h du matin le premier jour, un dimanche, ou un lundi peut-être. Peu importe, puisque cela n'importera bientôt plus. Je me trouvais dans un de ces clubs de jazz clandestins qui avaient fleuri un peu partout dans les quartiers périphériques. Une mode récente et sans raison apparente, à rebours de toute logique. Une folie locale qui nous arrachait violemment au style bourgeois et platement culturel de cette région abominablement française. On se réunissait dans les caves les plus minables, parfois éclairées par un seul néon qui ne tiendrait pas jusqu'au bout de la nuit. Rapidement, on suait, on suffoquait, attendant parfois des heures que les musiciens arrivent. Le plus souvent pourtant, la soirée acquérait bientôt une légèreté imprévisible, comme si la musique nous agitait au point de finir par nous maintenir en suspension. La plupart de ceux qui s'étaient malencontreusement retrouvés happés dans une de ces nuits loufoques ne vivaient plus que pour les revivre. La frontière, c'est ainsi que nous nommions ce monde qui nous accueillait et qui n'avait pas de lieu bien déterminé. La frontière comptait déjà ses mythes, ses héros d'un soir. Chaque nouveau jour écrivait un chapitre qui semblait narrer des événements d'emblée vieux d'un demi-siècle. On oubliait insidieusement ce qu'était le temps. Tout nous paraissait trop lent et trop rapide à la fois. Totalement déréglés par notre double vie, nous commencions à avoir de sérieux problèmes avec la société. Heureusement, Ce fut ce moment que choisit cette société pour commencer à déconner tout entière. Il était 1h du matin, le premier jour, lorsque tout débuta. Du moins à ma connaissance. Il y eut sans doute plusieurs entrées dans le labyrinthe des jours qui suivirent. Nous étions en transe sur une improvisation diabolique de Snake et Sal Mandello. Nous étions en transe sur une improvisation diabolique de Snake et Sal Mandello, une comète musicale récemment apparue dans les parages. Lorsque celui-ci trébucha, emporté au milieu de son auditoire par le poids de son saxophone. Croyant à une pirouette scénique, trop heureux qu'il vienne communier avec nous dans la sueur et les râles, nous exultions. Mais, bien vite, tout le monde se rendit compte que plus un son ne sortait de son instrument, et que Snake restait figé, un genou à terre. On entendait un bruit d'air comprimé, comme si Snake s'acharnait à déboucher son sax, récalcitrant à produire la moindre note. Il bascula en arrière et nous vîmes son visage effectivement crispé dans l'effort. Chacun d'entre nous fixait tour à tour l'orifice du sax et le visage de Snake. Quand, dans une fugue d'obscène flatulence, nous vîmes une forme visqueuse s'extirper avec une lenteur extrême, une lenteur à vomir, du cornet. La forme en question s'avéra bientôt être munie d'une tête triangulaire aux angles arrondis, sur laquelle s'incrustaient deux billes noires et brillantes en place des yeux. Le corps de la bête était assez fin, noir tacheté de jaune, et se terminait par une longue queue. À l'extrémité des pattes, des boules remplaçaient les phalanges. Il s'agissait d'une salamandre. D'abord énorme, lorsqu'elle avait émergé du saxophone, elle semblait avoir instantanément rétréci en tombant sur le sol. Minuscule prodige que nous contemplions sans un souffle. Jusqu'à ce que quelqu'un s'exclame « Merde ! Ce type est un foutu génie ! Il chie des animaux aussi splendides que sa musique nous file la nausée !» L'assistance se perdit en exclamations gutturales, se frappant le corps et la tête, bouleversé par ce qui était déjà un tournant dans l'histoire universelle de la frontière. Snake S serait sans doute bientôt une icône, à jamais connue pour ses dons d'invocation d'animaux rampants, un mage autant qu'un jazzman. Après cette apparition inopinée toutefois, plus aucun son ne voulut sortir de son sax. Un vide incompréhensible filait dans l'instrument comme s'il s'agissait d'un vulgaire tuyau. Tous perdus dans des contrées de l'esprit jusqu'ici inexplorées, nous nous dispersâmes sans même nous lamenter de cette brusque conclusion.
Immortel, éternel, ineffable et incréé, Père de toutes choses, qui est porté sur le chariot roulant sans cesse des mondes qui tournent toujours. Dominateur des immensités éthérées, où est élevé le trône de ta puissance, du haut duquel tes yeux redoutables découvrent tout, et tes belles et saintes oreilles écoutent tout, exauce tes enfants que tu as aimés dès la naissance des siècles, car ta dorée et grande et éternelle majesté resplendit au-dessus du monde et du ciel des étoiles. Tu es élevé sur elle au feu étincelant. Là tu t'allumes et t'entretiens toi-même par ta propre splendeur. Et il sort de ton essence des ruisseaux intarissables de lumière qui nourrissent ton esprit infini. Cet esprit infini nourrit toute chose et fait ce trésor inépuisable de substances toujours prêtes pour la génération qui la travaille et qui s'approprie les formes dont tu l'as imprégnée dès le principe. De cet esprit tire aussi leur origine ces rois très saints qui sont autour de ton trône et qui composent ta tour. Ô Père universel, unique, ô Père des bienheureux, mortels et immortels, tu as créé en particulier des puissances qui sont merveilleusement semblables à ton éternelle pensée et ton essence adorable. Tu les as établies supérieures aux anges qui annoncent au monde tes volontés. Tu nous as créés au troisième rang de notre empire élémentaire. Là, notre continuel exercice est de te louer et d'adorer tes désirs. Là, nous brûlons sans cesse en aspirant à te posséder, ô père, ô mère, la plus tendre des mères, ô archétype admirable de la maternité et du pur amour. Ô fils, la fleur des fils, aux formes de toutes les formes. Âme, esprit, harmonie et nombre de toutes choses. Amen. Ceci était une oraison aux salamandres, composée par Eliphas Lévi, dans son dogme et rituel de la haute magie.
Nous poursuivons la lecture d'Apocalypticol Salamander. Notre héros, alors qu'il assistait à un concert de free jazz dans une cave clandestine, vit apparaître une salamandre du saxophone du leader. Après la stupeur, l'auditoire se dispersait et le héros entrait dormir chez lui. Le lendemain, je me levais avec plusieurs heures de retard et restais incapable de me presser, engourdi par la frousse terrible que m'inspirait mon boss. J'avais le sentiment d'avoir trébuché dans un bol de gélatine cosmique. J'empruntais la liaison nord-ouest pour contourner le centre-ville, sans doute bondé à cette heure-ci. Le tronçon où je m'engageais me parut compter un nombre incalculable de voies. Le périph' fut bientôt pris d'assaut parce que j'identifiais comme un club de collectionneurs de voitures. Il se rendait probablement à un meeting. Assez vite, je compris que j'assistais sans doute plus tôt au défilé d'une rencontre internationale d'amateurs de vieux véhicules. Ils étaient si nombreux à se mêler au flot habituel que je m'étonnais de n'avoir pas eu vent de l'événement. Je remarquai surtout une Cadillac 450, gris turquoise, transportant des messieurs très chiquement vêtus, dont l'un tenait sur ses genoux une forme sombre qui faisait penser à un vieux fusil mitrailleur. Il faisait une chaleur à tomber. Le trafic ralentit brusquement et je manquais d'emboutir une Simca décapotable noire, couverte de boue, qui contenait deux énergumènes en redingote et chapeau mousseline, dont la tête était entièrement recouverte d'un collant sombre. Leur passagère me dévisagea. Ses yeux semblaient sourire.
Qu'est-ce qu'il exactement ?
Elle était bâillonnée.
C'est le musicien américain Miles Davis qui est en train d'improviser sur les images de mon...
Leur passagère me dévisagea. Ses yeux semblaient sourire. Pourtant, elle était bâillonnée. La circulation était à l'arrêt. Au bout d'une heure, j'abandonnais tout espoir d'aller au travail et me mis à klaxonner rageusement, en chœur avec les autres automobilistes. Le jour déclinait, renforçant par là le sentiment d'écrasante lassitude communiqué par la canicule. Je klaxonnais encore, lorsque la manette se durcit subitement, refusant de se compresser pour faire résonner les coups de sirène. Je forçais, une fois, deux fois, risquant de la briser, et je continuais de pomper lorsqu'elle regagna un peu de jeu. Soudain, j'aperçus des formes sombres émergeant par les interstices de mon capot. J'arrêtai d'activer mon klaxon, toujours muet. Une, deux, puis trois salamandres apparurent en se contorsionnant, stagnant ensuite sur la voiture alors que je m'enfonçais dans mon siège. Je tendais coup d'œil hagard autour de moi en priant qu'avec l'obscurité qui descendait, personne n'avait remarqué ce qui venait de se passer. Les salamandres finirent par tomber sur le bitume après une marche interminable sur le capot. Le trafic reprit lentement. La nuit était tombée. Dans le faisceau de mes phares, je voyais régulièrement des taches épaisses et repoussantes où l'on distinguait nettement du noir et du jaune au milieu d'une bouillie de chair gluante. Épuisé par cette journée perdue inutilement, je sombrais dans un sommeil torturé après avoir renoncé à me rendre dans une cave à jazz pour m'y défouler. Intermède ethnographique. Nous sommes aujourd'hui en présence de quelqu'un qui s'est rendu au Zaïre pour assister à la cérémonie d'un maître du feu. Et je crois que cela avait un rapport quelconque avec les salamandres. Veuillez, si vous voulez bien vous en donner la peine, nous expliquer un peu ce que vous avez pu voir.
Oui, alors le maître du feu était là, devant nous, au centre du cercle que nous formions tout autour de lui. L'homme se concentra et je le vis entrer en état méditatif, en communion avec les éléments. Autour de lui, plus rien ne bougeait et l'air lui-même semblait s'être arrêté de respirer. J'ignorais qu'il savait se centrer de la sorte. L'homme avait les yeux fermés. Il les ouvrit soudain et disposa quelques branches comme pour allumer un feu. Puis il se mit à dessiner d'étranges figures sur le sol. Il se penche un instant sur les branches, comme pour leur parler, et saluer quelque chose ou quelqu'un que je ne voyais pas. C'est alors que soudainement un brasier s'alluma. D'abord modeste, puis gigantesque. Les flammes dansaient et tournaient, et je perçus ce que l'on nomme les êtres de la flamme. Salamandres. Ils se dressaient là, avec des expressions mouvantes, tantôt grimaçantes, tantôt rieuses. Ils jouaient et tournoyaient, faisaient corps avec l'ensemble du feu. L'homme prit alors une branche enflammée et commença à se doucher avec le feu. Il passait la flamme sur tout le haut de son corps, à présent nu comme l'on peut faire sous une eau bienfaisante. Le feu était comme son allié, et je savais en cet instant qu'il ne le brûlerait pas, mais qu'il le purifierait. Avec puissance, le danseur continue sa danse, et posant le morceau de bois brûlant, il s'empara des braises qu'il tint quelques minutes dans les mains. Puis, tout en passant devant chacun de nous, il les avala. L'une après l'autre. Ce fut un moment fantastique. Sur un plan plus subtil, je pouvais voir tous ces petits êtres de la flamme tournoyer autour de lui et le frôler comme pour le caresser au passage. Ces êtres sans visage véritable et au corps mouvant me parurent émettre une force et une beauté indicibles. Les êtres de feu présents étaient dans l'énergie de la purification, et non celle de la destruction. Ils étaient des sortes de Shiva, qui anéantissent l'ancien pour faire place au nouveau qui vient, mais qui ne détruisent pas pour le simple plaisir. Je les voyais, et ils me regardaient, puissants et ludiques, accompagnant d'un moment du maître du feu qu'ils semblaient suivre et protéger, tant ils l'entouraient comme une garde rapprochée.
Thank you.
quantité innombrable de rêves qui sillonnèrent ma nuit. Il y eut toujours un type en redingote claire et chapeau sombre, le visage figé dans un air de crooner à la Humphrey Bogart. Le type finissait inlassablement par venir me demander de lui allumer sa cigarette. À la suite de quoi, il me fixait, relevant un sourcil, l'air mi-inspiré, mi-imbécile, puis me saisissant la main pour y déposer en le claquant un paquet humide. Le paquet s'animait. C'était une foutue salamandre. Humphrey Bogart, face à mon air dégoûté, partait d'un grand rire et m'adressait ce conseil. Ne flippe pas, car voici la clé. Au fur et à mesure, ils étaient de plus en plus nombreux, en redingote claire et chapeau noir, à se presser autour de moi, alors que je me perdais dans une ville déserte et inconnue. Je me réveillais plus tard encore le second jour. La température avait grimpé, l'air était plus moite. En descendant de mon appartement, situé dans un bâtiment monumental et architecturalement insipide, je croisais un résident de l'immeuble. Je me souvenais l'avoir vu dans la cave, lorsque la salamandre était sortie du sac de Snake. En dehors des moments où il s'y retrouvait, les passagers de la frontière avaient pour habitude de faire comme si celle-ci n'existait pas. Le plus souvent, deux passagers qui se croisaient s'ignoraient mutuellement pour ne pas être tentés d'aborder le sujet. Ainsi, je fus pris court lorsque mon voisin s'approcha de moi et m'adressa un salut furtif tout en me barrant le passage, immobile. Il était petit et bourru, les pieds sensiblement tordus vers l'intérieur. Il faisait nerveusement tourner un couvre-chef usé entre ses deux mains, effectuant quelques pauses rapides pour essuyer son front suintant de sueur avec un mouchoir écossais. Interloqué par son geste, je restais planté stupidement devant lui, ne répondant rien à son salut, attendant qu'il m'explique la raison de son interpellation. Il reprit en bredouillant.
Tu es au courant ?
Je fis signe que je ne comprenais pas.
Tu n'y es pas retourné ?
Non. Il parut embarrassé, dodelinant de la tête avec inquiétude. Il tenta de parler encore, ce qui paraissait exiger de lui un effort considérable. Sa bouche s'ouvrait et se refermait. On aurait dit qu'il gobait l'air plutôt qu'il ne respirait. Ce fut moi qui repris la conversation pour l'encourager. Que s'est-il passé au juste ? Rien de grave, j'espère.
Non, enfin...
Après une pause...
C'est arrivé presque partout.
Mais quoi donc ?
Le coup de la salamandre. Dans d'autres caves. Exactement la même apparition. Des salamandres qui sortent des instruments. Hier, impossible de trouver une cave avec de la musique. Plus un seul musicien.
Il débita ses phrases très vite, tourna les talons et disparut. Je sortis à sa suite, dans la rue. Une rue quelconque, en plein soleil, un soleil de plomb, aveuglant. De sorte qu'il faisait sombre en pleine lumière. Immédiatement, la rue me parut étonnamment assourdie. Pourtant, rien ne semblait changer de la cohue habituelle. Peut-être que je n'étais pas le seul à être plongé dans une torpeur quasi hypnotisante et que chacun faisait en silence ce qui d'habitude s'accompagnait de bruit. J'errais sans but, ne songeant même plus à me rendre au travail, cherchant un moyen d'échapper à la chaleur furibonde qui régnait dehors. Je finis par me réfugier dans une des multiples cathédrales de la ville. Visiblement, je n'étais pas le seul à avoir été attiré par cette oasis d'ombre et de fraîcheur, de sorte qu'un brouhaha étouffé s'élevait dans la nef. Un brouhaha en sourdine, bizarrement semblable à celui qui s'était répandu en ville. Recouvrant un peu mes esprits, je décidai de ne pas passer une nouvelle journée sans rien faire. Je m'élançai dehors, me sentant soudainement emporté par une vague romanesque. Je m'imaginais en détective. Il fallait enquêter sur cette histoire des musiciens disparus et commencer par trouver des cigarettes. Vibrant d'un nouvel enthousiasme, peu inquiet du fait que le jour était déjà largement déclinant, je traversai précipitamment la rue qui longeait la cathédrale afin de me jeter dans un bureau de tabac. Je manquais de me faire renverser par une énorme berline outrageusement démodée. Le chauffeur m'assaillit de regards haineux, quoiqu'il avait pilé et était reparti sans le moindre bruit. Sur son capot, j'aperçus une demi-douzaine de salamandres alors qu'il s'éloignait. L'air poissait d'odeurs nauséabondes. Les égouts refoulaient des effluves à en crever. Je dirigeais mes pas vers les HLM du district sud, où je savais que Snake avait grandi. Lorsque je passais la rivière qui délimitait l'entrée du quartier, je ne pus m'esquiver à la vue d'une masse grouillante qui débordait d'en dessous du pont. Me penchant par-dessus la rambarde, malgré la nuit tombante, mes yeux restèrent captivés par la vision d'un agglutinement de salamandres qui s'écoulait depuis la rive dans une flaque stagnante.
Vous êtes bien sur Vacarme en Réunion. Aujourd'hui, les salamandres ont envahi le studio. Nous avons plusieurs invités. Nous avons entendu un maître du feu du Zaïre. Le récit d'un maître du feu du Zaïre, pardon. Et notre nouvel invité vient du Sri Lanka cette fois. Et il va vous parler un peu de ce qui se passe là-bas. Du feu qu'on a juste sous la plante des pieds.
Oui, alors tout à fait. J'ai été initié par des maîtres de marcheurs de feu au Sri Lanka. Et je vais parler à ceux qui voudraient faire des initiations de marcheurs de feu. Nous faisons des jeûnes et des méditations durant plusieurs jours à ceux qui veulent tenter l'expérience car il est nécessaire. Non pas d'accomplir une performance, mais d'entrer en contact avec l'âme qui préside à toutes ces choses et qui vit dans le feu. C'est très important. Je ne vous parle pas ici des petits êtres du feu, mais du grand esprit qui les dirige. C'est avec lui que je dois entrer en relation l'âme de celui qui veut traverser le feu. C'est à lui que l'autorisation puis le soutien doivent être demandés. S'il donne son accord, l'homme ou la femme peuvent danser sur le brasier sans que rien de nocif ne puisse leur arriver. Souvenez-vous, il faut être en accord avec le grand esprit qui dirige les petits êtres de feu.
Apocalyptical Salamander. À ce point de l'histoire, alors que notre personnage s'apprête à pénétrer des territoires réels et imaginaires qui l'emmèneront au-delà de toute certitude, on peut se demander s'il est bien nécessaire de simuler encore une quelconque cohérence narrative. Ce qui s'annonçait comme une enquête de détective amateur menée à rebours d'inquiétants phénomènes s'avère déjà n'être qu'une tentative désespérée pour ne pas sombrer dans une folie inéluctable. Le héros de notre histoire, qu'on n'a même pas pris la peine de vous présenter, puisque ce pourrait être n'importe lequel d'entre nous, se retrouvera les jours suivants emporté au milieu de la faillite générale d'un monde qui était mûr pour le déluge. Un monde aussi enfoncé que le nôtre dans des impasses incessamment approfondies. Un monde sans horizon, désirable, en dépit de son agitation tous azimuts. Un monde qui ne tenait que grâce à l'hypocrisie à laquelle on avait bien voulu livrer la régence de tous les rapports sociaux. Un monde auquel il n'aura fallu que l'insistance quelque peu obstinée d'une inexplicable pullulation de salamandres pour dérailler par tous les bords. Poursuivi par ces fantômes nocturnes, notre misérable héros se retrouva bientôt traqué. Il voyait à chaque coin de rue un Humphrey Bogart en gabardine beige et chapeau sombre, le scrutant d'un air accusateur. Ne pouvant plus fuir nulle part, il se résolut à devenir lui-même un de ces clones de l'angoisse, et ainsi vêtu d'un identique manteau et d'un identique chapeau, tenta le lendemain de se confondre avec ses poursuivants de la veille. Participant ainsi à l'inflation des névroses d'une société prête à tout croire pour oublier le pire. Ainsi grimé, devenu réellement quelconque, ne sachant plus dormir, ayant outrepassé les limites de la veille et du sommeil, il s'enfuit, s'embourbant dans le dédale de cette ville qui connaissait les derniers jours de son histoire jusqu'ici en tout point médiocre. Le troisième jour, de notre histoire, l'hystérie collective entra en éruption. Ce qui relevait d'un phénomène bizarre qu'on espérait vite oublier était devenu une menace sanitaire. Les citoyens s'organisaient en brigade de nettoyage et en profitèrent pour se vautrer dans les réjouissances d'un massacre facile. Pourtant, le soir même, les salamandres étaient 100 fois plus nombreuses et l'on avait tout juste accéléré la propagation dans l'air d'une odeur de putréfaction vaseuse à la limite de l'insoutenable. Le quatrième jour, aux alentours des Halles, une bataille de rue éclata. Le motif en resta obscur. On crut simplement voir se presser l'une contre l'autre deux masses dont l'une se distinguait par des étendards floqués de salamandres intégralement noirs et l'autre par des étendards floqués de salamandres scrupuleusement jaunes. Ce fut l'épicentre d'une passion éphémère qui se répandit dans toute la ville à la vitesse d'une traînée de poudre. Des bandes se constituaient et se disloquaient au gré des accrochages. On s'affrontait un peu partout pour les motifs les plus dérisoires. Un espèce d'engouement guerrier avait contaminé les âmes et on se livrait à la castagne avec une joie libératrice. Les salamandres furent oubliés un temps. Le soir même, la moitié de la ville était incendiée. La prison, éventrée par un tir de roquette, s'était vidée de ses occupants. On pataugeait dans une boue sombre veinée de reflets jaunes d'or. À l'aube du cinquième jour, un silence gros de catastrophes à venir régnait. Un observateur bien avisé, qui aurait pris un peu de recul en même temps que de la hauteur, aurait sans doute été frappé par une vision singulière. L'existence avait acquis une autre dimension et l'on s'était réfugié sur les toits pour fuir à la fois l'immonde puanteur des rues et le voisinage des colonies de salamandres qui n'épargnaient aucune habitation tout en désertant inexplicablement les hauteurs. Des baraquements de fortune avaient fleuri sur l'intégralité des toitures et l'on commençait à établir des voies de communication aérienne à l'aide de cordes et de mauvais bouts de bois prélevés de ci, de là. À la canicule avait brusquement succédé une fraîcheur mordante et les multiples fumerolles des braseros, mais les eaux fumées des bâtiments incendiés se consumant encore, conféraient à la ville l'allure d'un cadavre habité. Bien sûr, il y avait les récalcitrants, les tenaces, ceux qui refusaient de quitter la terre ferme, toute saturée de salamandres vivantes, putréfiées, liquéfiées qu'elles pouvaient être. Ils n'étaient pas peu nombreux. Et comme, pour ne pas sombrer entièrement dans cette vision d'un univers intégralement morbide, ils se mirent en tête d'apprivoiser les salamandres. Assez vite, s'organisèrent des rencontres qui réunissaient tout ce que l'on pouvait imaginer d'experts salamandriers. Du dressage à la confection de bijoux, de l'art culinaire à celui de la métamorphose croisée. En un jour à peine, tout ce qui pouvait s'expérimenter avec et sur des salamandres jaillit des esprits bouillonnants et détraqués des habitants de cette cité vouée à une fin imminente. Le cinquième jour fut ainsi un jour d'accalmie et de respiration. Un jour d'absurde créativité. Le champ du cygne des facultés humaines. Le dernier jour de l'humanité. Par-delà la violence, par-delà l'amnésie, on avait trouvé, en bas, dans une collusion avec le fléau, un sursis provisoire. La journée se passa sans heurts, hormis la mort atroce et inutile de quelques illuminés qui, croyant être parvenus à une transformation totale en salamandre, avaient tenté de se plonger dans les flammes pour le prouver. Ce fut ce jour également que les rumeurs, les plus grossièrement superstitieuses, se répandirent au sujet d'un carnaval prévu pour un jour proche. On ne sut jamais comment ni pourquoi l'idée de ce carnaval avait été formulée, mais tout le monde se prépara désormais pour l'événement.
I used to be an axolotl. I did what axolotls do. I breathed through gills, my skin was mottled. I know you won't believe it's true. But then one day I found a bottle filled with salamander goo. I drank a little, then a lotl. I necked the whole ungodly brew. Now I'm a
salamander, 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 la 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 la. Salamander, 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 la 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 la. Salamander, 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 blablabla. Salamander, 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 yeah.
At first I loved my change of species, embraced my metamorphic fate. I breathed through lungs, I walked the earth, I took a salamandy-mate. But nowadays I'm melancholic, I miss my neotenic state. I rue the day I drank that bottle, I can't go back now, it's too late. Now I'm a
salamander, salamander,
sa-la-la-la-la.
Salamander, 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 salamander,
salamander,
Le plus surprenant pour quiconque aurait assisté sans s'y mêler à la trop longue déliquescence de cette société aurait été l'inélucidable calme sonore qui s'approfondissait à mesure que le délire allait en s'augmentant. Les actes les plus furieux s'accompagnaient d'une absence de son qui donnait à l'ensemble la texture d'un spectacle subaquatique. Les yeux clos, déambulant au milieu de ce remuant désastre, on aurait sans nul doute, eu l'impression d'arpenter les profondeurs d'un océan où grouilleraient les ultimes survivants d'une civilisation déchue. Le sixième jour, une fièvre similaire à celle qui précède les grandes fêtes s'empara muettement de toute la ville. On se pressait, en haut comme en bas, on s'affairait en tous sens. Tout ce qui restait de matériaux utilisables, bois, verre, ferraille, armoires, frigidaires, voitures, wagons de tramway, kiosques à journaux, chaises et tables de restaurant, tout ce qui était encore valable fut désossé, découpé, puis assemblé de nouveau, soudé, vissé, afin de construire d'immenses structures mobiles dont les silhouettes torturées et brinque-ballantes auraient provoqué la réticence incrédule de n'importe quel cerveau occidental. Tout ceci continuait de s'accomplir dans un silence sourd et croissant, régulièrement perturbé par d'affreux vomissements. Au terme de la journée, chaque citoyen avait fini par vomir au moins une salamandre. On ne songeait même plus à s'en étonner. Pas plus qu'on ne s'étonna du mutisme qui gagnait les corps après les vomissements. Exactement comme au début de notre histoire, le son s'était évaporé du saxophone de Snake S. Salmandello, après qu'il s'en soit extirpé l'animal qu'on sait. La totalité des habitants de cette ville, définitivement à l'agonie, avait abandonné la parole dans une dernière régurgitation. Et c'était sans doute là la plus grande horreur qui s'était abattue sur ces pauvres errants, plus que la fange putride où ils baignaient, plus que l'exploration du vice et de la folie qui avait été ici menée à son terme, le mal le plus implacable, celui qui condamnait à très court terme cette assemblée de morts vivants, c'était la perte de toute musique. Les dernières heures, celles qui nous emmènent du sixième jour à la dernière minute du dernier jour, se passèrent ainsi dans une ambiance étouffée et caverneuse. L'air était chargé d'acide et ne vibrait plus que de basses résonances qui paraissaient émerger des entrailles monstrueuses d'un sous-sol impossible. Le septième jour était jour de carnaval. Dès le petit matin, la foule se mit en marche. Elle progressait au rythme de la libre course des machines construites la veille, telle une armée de pantins sans organes. Empruntant les rues quand elles s'établissaient dans le sens approprié, cheminant sur les crêtes des immeubles lorsque ceux-ci barraient la route du cortège. Tout ceci sans un son, avec une précision et une logique improbable au terme d'une telle déchéance. Le cortège acquit progressivement une forme circulaire. On s'éloignait de cet obscur théâtre, non pas en ligne droite, fuyant tous dans la même direction, mais en tous sens. Bientôt, la masse sombre, formant un disque irrégulier, s'étirait en s'éloignant du centre-ville pour gagner, finalement, les collines alentour. Maintenant immobiles, fixant silencieusement les ruines de leur cité, les habitants attendirent que quelque chose se passât, qui les délivrerait des tourmentes de ce misérable et grotesque cloaque. On vit s'avancer d'un pas, en avant, des ombres chancelantes, des silhouettes munies d'instruments irradiants comme un métal en fusion. Ici un trombone, à coulisses. Là un saxophone, plus loin un tuba, là-bas une trompette. Inspirant comme un seul corps, ce brass band apocalyptique fit vibrer les premières notes des temps nouveaux. Ce fut un cataclysme sonore qui arracha dans des convulsions inspirées les dernières notes que pouvaient contenir tous ces carcasses mutiques et fatiguées. Ce fut la première étincelle. Le feu se répandit.
Si vous avez bien suivi notre cours sur la salamandre, vous savez que la salamandre est partout. La salamandre s'intéresse également aux choses qui nous intéressent ou qui nous désintéressent dans ce monde. Comme par exemple, en ce jour spécial d'élection, la salamandre s'exprime au travers d'un film d'Alain Tanner sur les élections.
On enfonce. Mais qu'est-ce que je fais ici, hein? Qu'est-ce que je fous ici? Tu peux me le dire? On fait rien. Rien du tout. On bricole. Ah, que le bonheur est proche! Je le sens venir. Tu le sens? Ah, que le bonheur est proche! Ah, que le bonheur est lointain! Et que la préhistoire est longue!
Et nous marchons un petit pas vers la mort!
Avant de crever, le capitalisme, dans sa perversité fondamentale, et la bureaucratie, dans son dogmatisme obtus, feront chier encore pas mal de monde.
Ah, que le bonheur est proche. Ah, que le bonheur est lointain.
Tu crois qu'on est foutu?
Ah non, en passant par là, on s'en sortira.
En passant par là?
Oui, par là. On est en route. Vers la terre promise.
Tu crois? Les issues ont l'air plutôt bouchées.
Ah, on n'a pas le choix. Ou bien, on est en route vers la terre promise. Ou bien, on est en route vers la barbarie et l'intoxication programmée que nous préparent les technocrates.
Avec l'appui des majorités silencieuses.
Comme tu dis.
Ah, que le bonheur est proche. Ah, que le bonheur est lointain. Ah, que le bonheur est proche. Ah, que le bonheur est lointain. Ah, que le bonheur est proche. Ah, que le bonheur est lointain. Ah, que le bonheur est proche. Ah, que le bonheur est lointain.
Une majorité silencieuse est composé de gens comme vous et moi, munis de bras et de jambes, mais qui, de temps à autre, dans le secret d'un isoloir, séparés de leurs frères comme aux toilettes, votent pour des cuistres et des canailles.
C'était Vacarme en Réunion, une émission envahie par les salamandres. Le calme est revenu. Tout a été détruit, tout est brûlé, il ne reste plus rien, il ne reste plus que nous, une voix, deux voix. Quoi donc dans ce monde? Et la vie reprend petit à petit, la vie reprend petit à petit, pour vous dire qu'il faut tous venir à cette grande fête dont on nous a fait part le 5 avril. Le sale qu'avril, contre quoi? Contre les fascistes, contre les colères froides et peureuses, contre tout ce que vous voulez. Allez vous renseigner sur 5avril.noblogs.org si vous voulez barrer l'accès à cette espèce de vague réactionnaire franco-française dégueulasse, là qui depuis l'année dernière, la manif pour tous et toutes ces merdes, est venu polluer, mais on sait pas quoi, mais en tout cas il faut leur barrer la route et il faut faire la fête à la place. Alors 5avril.noblogs.org, nous vous en reparlerons bientôt sur cette radio. Merci de nous avoir écoutés pour cette émission expérimentale. Nous allons rendre la voix en même temps que le direct.
Toutes les salamandres seront au rendez-vous.
Pour finir, une petite dédicace à tous les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas le bonheur de pouvoir converser avec les salamandres.
Ouais, je dédicace à tous les taulards qui nous écoutent depuis la prison de Dijon. Les gros, c'est pour vous un morceau de hip-hop pour finir cette émission de radio. Oh, oh, oh. Ma boîte à musique, Melfiano, dédicace à tous les taulards. Qu'il soit en isolement, qu'il soit en tôle pour je ne sais quoi. A plus les gros, tcho tcho tcho, vacarme en réunion, il est bientôt 17h, dimanche 23 mars. Orange du direct, adieu, ouais les gros.
Surprise, je suis sorti de ma boîte à musique. On est resté offensif comme Ribéry à Munich. J'suis pas du genre à me défiler, j'sais plus vraiment à qui me fier.